France Inter.
Le masque et la palme. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, la fête est finie. C'est hier soir, en effet, que s'est clos le Festival de Cannes et qu'a été donné au Grand Théâtre Lumière le palmarès de cette 76e édition. Nous allons le commenter en direct avec la fine équipe du Masque et la Plume, un peu trop bronzée à mon goût. Charlotte Lipinska de Vogue, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession et Monsieur Seri le vendredi matin sur Inter, Eric Neuhoff du Figaro et le boss Michel Simon de Positif, un festival dont, je vous le rappelle, la maîtresse de cérémonie était Chiara Mastroianni, sa mère Catherine Deneuve étant le beau visage de l'affiche. Festival qui s'est ouvert avec la Jeanne du Barry de Mai Wen et refermé hier soir avec un film d'animation Pixar élémentaire de Peter Sohn. Je rappelle que le jury chargé de départager les 21 films en compétition était présidé par le cinéaste suédois deux fois palmé d'or Ruben Östlund, pour lequel vous n'aviez pas été très tendre, me semble-t-il, l'année dernière, et composé de la réalisatrice française également palmé d'or Julia Ducournau, de l'actrice américaine Brie Larson, de la réalisatrice marocaine Mariam Touzani, de l'acteur français Denis Ménochet, de l'écrivain franco-afghan et prix Goncourt Atik Raimi, du réalisateur argentin Damien Cifron, de l'acteur américain Paul Dano et de la réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nioni, une compétition où l'on a retrouvé nombre d'habitués, dont 5 palmés d'or, Nanni Moretti, Kore-eda, Nuri Bilgelan, Ken Loach et Wim Wenders, ainsi que la présence en compétition, et c'est un double record, de 3 cinéastes italiens et de 7 réalisatrices. Comment vous jugez ce cru 2023 du festival, Charlotte ?
Plutôt bon, vraiment, très bon. Alors, j'aurais toujours le regret, je trouve qu'il n'y a aucun film qui a vraiment suscité un engouement général, qui nous a transportés. Il y a souvent eu des films comme ça, qui étaient comme des vagues qui nous submergeaient. Il n'y a pas eu non plus de grandes révélations, parce que c'est des cinéastes qu'on connaissait très bien, mais qui étaient au rendez-vous. Je trouve très peu d'entre eux ont déçu nos attentes, enfin en tout cas les miennes. Je trouve qu'ils étaient là, les films étaient bons et bonne cuvée.
Xavier, cette cuvée 2023.
Si on ne parle que de la compétition, moi j'ai quand même le sentiment un peu perplexe qu'il y avait des filles qui ne méritaient absolument pas la compétition, qui n'étaient jamais à la hauteur d'une palme d'or. Et ça a un tout petit peu déséquilibré effectivement une ligne conductrice.
Mais c'est chaque année le cas.
Ouais, mais là je trouve que cette année le grand écart était particulièrement bien ou mal exécuté. C'est-à-dire que vraiment il y avait des films, après j'aime, je n'aime pas, mais qui avaient vraiment la teneur d'une palme d'or et des choses qui étaient quand même un tout petit peu mineures, voire embarrassantes à ce niveau de sélection et de projecteur mis sur les films. C'est bien parce que il y en avait d'autres ailleurs. Alors c'est le petit jeu habituel de notre retour de Cannes de dire bah oui, mais si on avait mis ça là et plutôt déplacé là. Mais là, franchement, objectivement par rapport au niveau global de la compétition, il y a des films qui ne méritaient pas du tout et ça n'était pas leur faire honneur puisque généralement ils en ont subi les conséquences que de les mettre à ce niveau effectivement de sélection.
Éric, dans la page quotidienne des notes du film français, je t'ai trouvé bien sévère pour beaucoup de films.
Oui, c'est parce que tu étais resté à Paris. C'est une des sélections les plus ternes, et Xavier a raison, avec beaucoup de films dont on se demandait ce qu'ils faisaient là, et même pourquoi on avait pu les tourner. Et je pense que le jury, qui a été composé de gens qui ne vont jamais au cinéma, après cette expérience, n'iront pas voir un film pendant plusieurs années.
Michel, ton sentiment sur cette cuvée
avec, ma copine là, du masque. Parce que je trouve que c'était plutôt une bonne sélection avec, effectivement, Xavier a raison, il y avait pour moi deux films, par exemple, qui était un film américain avec Sean Penn, qui n'avait rien à faire dans, dans une compétition, et un film historique en costume, ni fait ni à faire non plus, sur le roi Henri VIII. Mais dans l'ensemble, je trouve que la sélection... D'abord, ce qui était frappant, c'est qu'il y avait des records, mais qui n'ont pas été vraiment...
Oui, ils n'ont pas été couronnés de succès.
Les records, c'est... Si, les records, c'est les palmes d'or. 5 palmes d'or, oui, mais qui par des metteurs en scène qui ont toujours la forme, qui ont tous réussi leur film. Ça m'a frappé. Et par contre, on avait choisi 7 femmes, ce qui est unique dans l'histoire du Festival de Cannes. Il n'y en a qu'une seule, évidemment, avec une palme d'or, qui a été récompensée. Les 6 autres femmes n'ont rien eu. C'est un peu des paradoxes.
Mais en tout cas, les films italiens dont je parlais sont repartis bredouille. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même féliciter notre amie Françoise Bonnet de France Inter, qui fait tous les partenariats, puisque tous ces films primés sont des films inter, ou presque tous, en tout cas, à commencer par La Palme d'Or. Vous le savez, c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet, après la bataille de Solferino, Victoria, Sibylle. Anatomie d'une chute revisite le film de procès avec l'allemande Sandra Hüller, dont on va reparler dans quelques instants. Vous savez, la comédienne de Tony Erdmann est là dans le rôle d'une femme écrivaine, mère d'un fils malvoyant de 11 ans, qui est accusé du meurtre de son compagnon, avec qui elle s'était installée depuis un an dans un chalet à la montagne. Procès qui va déterminer évidemment la vérité, non seulement sur cette mort, mais aussi sur ce couple, film coécrit avec Arthur Harari, et une palme que Justine Triet a reçue hier soir en fustigeant un gouvernement, je cite, néolibéral, qui impose la réforme des retraites et, je cite toujours, qui veut casser l'exception culturelle française, exception dont, me semble-t-il, pourtant son film fait partie, un film qui sortira, je le dis pour nos auditrices et auditeurs, le 23 août. Éric.
C'est une drôle de palme, effectivement, parce qu'on va plus se souvenir du discours qu'elle a prononcé que du film lui-même, qui n'est pas honteux, mais quand même un truc beaucoup trop long, et bourré de petites coquetteries un peu ridicules. Comme le film n'est pas sorti, on peut pas trop raconter ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même l'histoire de deux écrivains, déjà, ça c'est un petit peu assommant, et deux personnages antipathiques, donc on se fiche un petit peu de savoir pourquoi l'un aurait tué l'autre ou pas. Et le film dure 2h30, ce qui est terrible. Et ça s'appelle...
C'est moins que le Nuri Bilgelan.
Oui, parce qu'il fallait se débrouiller assez bien pour trouver des films de moins de 3h aussi à Cannes. Et ça s'appelle Anatomie d'une chute, mais les chutes, c'est celle du film qu'elle a gardé sur l'écran beaucoup. Hein. C'est heureusement qu'il y a Sandra Hüller qui aurait dû avoir le prix d'interprétation pour les deux films dans lesquels elle joue. Mais à mon avis, c'est le film le moins original, le moins séduisant de Justine Triet.
Mais pourtant que ton journal, le Figaro, a défendu.
Oui, mais
défendu.
Ceux qui en parlent...
Non, je...
Oui, c'est vrai.
C'est une information.
J'avoue, je suis minoritaire là-dessus.
Charlotte.
Non, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'aime énormément ce film qui, je trouve... réussit ce point de jonction totalement improbable d'être à la fois limpide et mystérieux. C'est-à-dire que moi, je trouve le récit, j'étais complètement embarquée, alors contrairement à Eric, moi, pour le coup, j'ai pas du tout vu le temps passer. Je trouve qu'il y a une narration dans le scénario absolument magnifique. Et donc, c'est limpide et en même temps, ça reste mystérieux puisqu'il y a une part de ce personnage qui nous échappe. Effectivement, Sandra Hüller, elle est stupéfiante, elle est vertigineuse à regarder. Et je trouve le film très très bien mis en scène avec une cinématographie très différente des films précédents de Justine Triet. Donc moi, elle m'a vraiment étonnée parce qu'autant dans Sibylle, je trouve qu'elle s'était un peu pris les pieds dans le tapis, autant là, le film semble maîtrisé.
Non,
alors moi, la bataille de Solferino et Victoria avaient été vraiment des très heureuses surprises. Voilà, Sibylle, j'étais restée un peu extérieure au film. Et ben là, je le trouve maîtrisé de bout en bout. Le film, moi, me semble assez parfait et je comprends tout à fait qu'on lui décerne une palme d'or. Après, on pourra toujours chipoter parce qu'on a toujours d'autres films préférés. Mais là, ouais, Anatomie d'une chute, Autopsie d'un couple, je trouve ça vraiment très pertinent, très complexe
et
psychologiquement.
Et véritable film de procès, ça c'est vrai.
Oui, et puis elle réinvente le film de procès, puisqu'il va y avoir des flashbacks au moment de la prise de parole avec une scène que je trouve extraordinaire d'engueulade de couple, on peut dire ça en flashback, qui pour
mais
moi est très forte.
Mais qu'on ne détaillera pas avant le 23 août. Ouais. Xavier.
Juste dire la
prestation remarquable aussi de Swann Harlow, qui lui donne la réplique,
oui,
qui confirme qu'il est un de nos meilleurs acteurs français à ce jour. Comme rien n'existe avant le mai, je vais essayer de tourner ma phrase de manière la plus diplomatique possible, ce n'est pas une palme d'or, à mon sens, mais c'est néanmoins un très bon film. Il y avait une espèce de chauvinisme sur La Croisette qui consistait à ne pas avoir le droit d'avoir des réserves sur le Justine Trier. Il fallait tout de suite hurler au chef-d'œuvre et à la palme d'or. Bon, je suis désolé.
La presse de ce matin est d'ailleurs unanimement positive.
Oui, absolument. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis un petit peu ennuyé. J'étais comme Eric Neuf. De temps en temps, mon attention retombait. J'ai quand même l'impression que ce découpage, que l'on dira peut-être théâtral en trois actes, mais que l'on pourrait aussi raccrocher à celui d'une mini-série, parce qu'il y a quand même des cliffhangers à l'intérieur du récit qui font qu'on a l'impression qu'on va attendre l'épisode suivant pour savoir un tout petit peu comment ça va se passer. L'arrestation, parce que c'est un film de prétoire, ça je peux le dire, sans rien dévoiler. Et puis, au moment où ça devrait s'arrêter, le juge qui dit « Ah, on se retrouve lundi matin parce que le fils a une déclaration à faire. » C'est un excellent cliffhanger de série télé, ça, effectivement. Ça vous accroche tout de suite. Après, moi, alors, je suis ravi que Charlotte, dont je sais le talent d'analyse et l'acuité, trouve que la mise en scène est exceptionnelle. Là, le problème, c'est qu'on est en compétition, on est à Cannes, et quelques films de mise en scène ont quand même poussé tellement haut la beauté du curseur du geste que celui de Justine Trier me semble, encore une fois, au bout de quatre films, d'une banalité. Enfin, je dirais, à un moment, elle invente le panoramique, le travelling. Je suis désolé, c'est pas très bon, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est dur de le dire, à chaque fois, ça me fait du mal. Mais Eric a raison, hein, c'est quand même parfois de la coquetterie de mise en scène.
Et qu'en pense Michel Simon ?
Plutôt du bien, c'est-à-dire que j'avais été très réservé sur les trois premiers films.
Ah bah juste
de Justine Trier, parce que je l'ai trouvé très dans l'air du temps, très très branché et sans aucune vraiment originalité. Et par contre, peut-être le fait de passer par le film criminel, le film mystère, qui a tué cet homme, c'est une vieille recette.
Qui a tué cet homme, on ne sait pas s'il a été
tué. Voilà, les films criminels, c'est finalement des genres dans lesquels les gens, metteurs en scène, trouvent leur inspiration. Et il faut peut-être la chercher aussi du côté du co-scénariste Arthur Harari. Il faut pas l'oublier.
Et le mari donc de Justine Trier.
Un immense cinéaste qui a fait un film sur la guerre au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Onona.
Et puis un premier film, Diamant Noir, qui était également un film criminel sur les tailleurs de diamants dans Amsterdam, qui a travaillé avec elle. Ils sont mari et femme. Et peut-être cette alliance des deux scénaristes, plus la maturité acquise par Justine Triet, fait que c'est son meilleur film.
C'est une palme d'or pour toi ?
C'est la palme d'or, mais en tout cas, c'est un film très, très réussi.
Donc voilà, c'est la palme d'or, Anatomie d'une chute de Justine Triet, film inter que vous pourrez voir en salle à partir du 23 août. Le Grand Prix est allé à un film qui a frôlé la palme d'or, c'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, d'après le roman du Britannique Martin Amis, qui vraiment a disparu le 19 mai, le jour où l'équipe du film montait les marches pour aller présenter donc cette zone d'intérêt. C'est quand même une troublante et, je dois avouer, rarissime coïncidence. Un film dont le résumé, vous le savez peut-être toutes et tous, fait froid dans le dos, puisque le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille, dans une maison avec jardin qui est juste à côté du camp d'extermination. La zone d'intérêt, je parle de l'expression, était dans la langue nazie, qui est toujours basée évidemment sur les euphémismes, était le périmètre exact qui entourait le camp. Et c'est un film où l'on retrouve, je le disais en préambule, la décidément très présente et très remarquée à Cannes, Sandra Hüller, puisqu'elle joue la femme du commandant de camp. Xavier.
Il y avait une tendance cette année à Cannes, il y en avait au moins trois ou quatre dans la compétition, qui étaient des films très cliniques, des films de laborantin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a dessiné sur une table, comme ça, un petit labyrinthe, on y a mis une souris, dans l'espoir de voir un tout petit peu quels sont ses instincts.
Une souris grise.
Très grise. Donc c'est des films un peu, je dirais, Playmobil ou Lego. C'est-à-dire extrêmement étriqué, très très
film Playmobil pour la zone d'intérêt, c'est
bah oui, non mais dans sa mise en scène en tout cas très étriquée, il y avait le Wes Anderson, il y avait le Club Zero de Jessica Osner qui était une horreur absolue. Celui-ci est presque le plus regardable de cet intérêt et que je ne comprends pas et que je ne partage pas des réalisatrices et des réalisateurs pour manipuler comme ça des personnages dans une espèce de contexte que l'on a nettoyé. Je trouve quand même la représentation de cette petite maison proprette avec sa petite piscine, les enfants qui s'y ébattent, tout le monde est très joyeux.
Et derrière évidemment et derrière, le camp, alors, la
derrière,
fumée
c'est bien
des
le problème, c'est-à-dire que la grande question de la représentation ou pas, elle n'est même pas soulevée par Jonathan Glazer. Donc effectivement derrière, ce qu'on ne voit pas, donc en même temps on voit des chambres pardon à gaz, on ne voit que le plan que lui propose à un moment un architecte pour lui montrer comment
le plan
pourrait...
dessiné, hein, pas
oui, oui,
un
le plan
de
dessiné. On ne verra rien à l'écran, on entend effectivement des capots qui hurlent, on entend des coups de fusée qui sont tirés hors champ, on voit une cheminée dont sort une fumée
et on entend un bruit sourd.
Et on entend un bruit
de
sourd.
De crémation.
À un moment, oui, mais de crémation, on n'en sait rien. Et moi, c'est ce qui me pose un tout petit peu problème parce qu'il faut aussi faire des films pour le futur. Et je pense que les petits nazillons dans 100 ans seront ravis de montrer le film de Jonathan Glazer.
Non,
justement,
non,
on ne voit rien.
Oh ben,
je suis désolé,
non,
mais il y a quand même un risque. Et ceci mis à part, moi, sur un sujet pareil, faire un film très propre, très étriqué, très maison comme ça, coquette, me gêne.
Mais
quelle
est un peu la thématique que vous aviez aussi, maison coquette.
Oui, mais quand au bout.
Qui cache l'horreur.
Pardon, Jérôme, mais au bout de 5 minutes, quand on nous dit les nazis, ils aimaient aussi leurs enfants, ils étaient de très très bons époux, ils faisaient attention, on le savait, pardon, j'ai l'impression qu'on enfonce une porte ouverte, et qu'en 2023, faire un film sur un sujet pareil, au moment où les victimes, les derniers survivants sont en train de disparaître, où le révisionnisme fonctionne à plein, je ne suis pas sûr que ce film soit un excellent rempart, pardon de le dire.
Michel ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, ce film est très branché par rapport au monde intellectuel aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un film conceptuel. Conceptuel, c'est-à-dire que dès le départ, tout est donné. Et comme disait Xavier, on le sait, ça a été toujours montré. Il faut être naïf pour croire que un capot de centre de concentration n'aime pas les petits enfants, n'aime pas les pots de fleurs, n'aime pas arroser de gazon, etc. Ils sont comme tout le monde, des grands criminels. Et je trouve qu'une fois qu'on a posé ça comme une évidence, il faut regarder une heure et demie d'un film très tiré au cordeau, très bien cadré, très bien, très clean, très, très net, très propre. Mais finalement, alors on époussette un peu les cendres, visiblement, qui sortent du crématoire. Le chef du camp est un mari très aimable, etc. Mais je ne vois vraiment pas l'intérêt profond de ce genre de film.
Tout ça a été dans le roman de Martin Amis. Hein.
Oui, oui, peut-être.
Il n'y a pas de
même en
scène d'infidélité.
Parce que c'est quand même douteux, l'association du conte de fées.
Non, mais dans le roman, on entrait dans le camp.
Oui, on entrait dans le camp.
Alors que là, non.
Ah oui, il n'a pas voulu pour les raisons.
Et
je dirais Lance
Manuel. C'est d'ailleurs l'intérêt de tout le parti pris, ça. C'est pour montrer.
On va laisser juste terminer Michel.
Oui, j'ai dit ce que j'ai à dire. Je pense que ce film piétine, ne fait que répéter les choses. Et encore une fois, c'est du cinéma d'idées qui n'est pas vraiment transformé en quelque chose de cher.
Alors pour Eric, c'était la Palme d'Or.
Ouais, parce que ce sujet, moi, je le trouve tellement fort et maîtrisé complètement. C'est pas un petit capot banal. C'est le directeur du camp, c'est Rudolf Hess. Et si on ne voit pas le camp, c'est une volonté. Ce sont des gens qui savent ce qui se passe et qui ne veulent pas le voir. Le camp est au bout du jardin. Il est là en théorie pour eux. Cette femme continue à faire des gâteaux, à planter ses rosiers.
Oui, mais Rudolf Hess va voir tout ce qui se passe puisqu'il dirige le camp.
Mais il ne va pas raconter ça à sa famille. C'est ça qui est. On voit ce côté ménagère de 50 ans à 10 mètres de l'horreur, s'occupant de ses enfants, essayant des motos de fourrure, lui recevant une prostituée à un moment donné. Le film est tiré au cordeau, comme tu dirais, et c'est un film glaçant et qui explique très bien ce qui pouvait se passer. Le livre était déjà formidable, ça explique très bien comment ces choses-là pouvaient se passer et comment tout un pays a pu faire semblant de ne pas voir ce qui arrivait sous leurs yeux.
Le livre, je le rappelle, était un roman, c'était pas un récit historique.
Oui, c'était pas du tout Rudolf Hess, c'était un autre nom, Paul quelque chose.
Charlotte.
Moi, je suis très partagée, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un film de dispositif, et comme tout type de film de dispositif, il faut savoir tenir la longueur, et là, je trouve que le film s'effondre dans sa deuxième partie. C'est-à-dire que cette première partie, où on est entièrement dans la maison, je la trouve assez puissante visuellement, d'autant plus que, évidemment, il ne s'autorise aucun gros plan sur cette famille de nazis, donc on ne les voit que de loin, puisqu'on peut expliquer que Jonathan Glazer, le réalisateur, en fait, a posé 10 caméras dans cet endroit, et les acteurs étaient libres d'évoluer dans la maison, dans le jardin, de faire une vie quotidienne assez banale, et que lui, au montage, après, a choisi ses plans, et qu'on ne les verra jamais dans la proximité. Donc, on voit cette famille à distance, comme eux-mêmes tiennent à distance ce qui se passe derrière. Et en ça, je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a quand même un travail de son, et je voudrais citer, donc c'est Johnny Byrne, qui est à la fois le monteur du film et le créateur sonore. Il a reçu par ailleurs le prix de la CST, de la Commission supérieure technique. On est du coup quand même saisi par ce son lointain qu'on entend. Après, au final, je me dis, bon, tout ça pour ça, parce que la dernière partie du film, là, on va sortir de ce dispositif, et là, me semble un peu plus problématique, mais quand même, je suis entre les deux, c'est-à-dire que pendant une heure, je suis saisie par ce que je vois, et la mise en scène assez radicale du film.
C'est donc le Grand Prix, c'est encore un film inter, c'est la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, et il n'y a pas, en revanche, actuellement, de date de sortie
pas encore
annoncée, je pense que ce sera en tout cas à l'automne. Le prix du jury, puisque je vous rappelle que vous écoutez Le Masque et la Plume en direct et que nous commentons le palmarès de ce 76e festival avec Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Eric Neuhoff et Michel Simon. Le prix du jury, je le disais, est allé aux Feuilles mortes d'Aki Korismaki, qu'on a vu je ne sais combien de fois en compétition au Festival de Cannes. Il avait d'ailleurs pour ce cinéaste finlandais, il avait pour L'Homme sans passé reçu le Grand Prix, c'était en 2002, toujours au Festival de Cannes. Et là, c'est son 19e film dont j'ai envie de dire qu'il est à ultra korismakien. Ça se passe évidemment à Helsinki, c'est encore une rencontre la nuit entre deux solitaires. Je ne vais pas en dire davantage puisqu'il sortira le 20 septembre. Encore qu'il n'y ait pas vraiment, comme souvent chez Korismaki, de suspense à révéler. Mais il y a cette note, voilà, mélancolique, nostalgique, un peu amère, qu'on retrouve dans la plupart de ces films. Michel.
J'ai beaucoup aimé ce film. À un moment, d'ailleurs, il était presque pressenti par beaucoup de critiques, comme la Palme d'Or. Parce que d'abord, Korismaki ne l'a jamais eu. Et c'est tout de même un immense cinéaste. Et puis, évidemment, il y a le charme de retrouver tout son univers. C'est-à-dire que cette tendresse, cet humour, d'ailleurs la chanson « Les feuilles mortes », c'est une chanson bien connue de Prévert, et il y a une sorte de nostalgie qui perfuse le film. Moi j'ai été très très ému, extrêmement ému et très touché par le film. C'est un film miraculeux de simplicité, d'émotion, sans être jamais mièvre. Et je trouve que c'est un très grand cinéaste qui avait un peu disparu de la circulation, qui était très alcoolique.
Enfin, oui,
oui, il n'a pas fait de film depuis 10 ans.
Ça, on n'a pas à dire.
On n'a pas vu de film de lui depuis 10 ans. Il revient
après une cure d'alcool.
Oui, mais c'est quand même l'histoire d'un homme qui va essayer d'arrêter l'alcool par amour.
On parle de réalisateur. On parle de réalisateur.
Oui, mais c'est très autobiographique.
Mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on peut en parler.
Charlotte.
Je pense que c'est un peu ce qu'on appelle les petits films qui sont aussi des grands films.
Bah, c'est la poésie pure. Moi, j'étais tellement heureuse de replonger dans cette veine de Korismaki qui est toujours un peu vintage, un peu rétro, coloré. C'est un grand formaliste aussi, mais pour moi, c'est l'anti-Wes Anderson. C'est-à-dire que ça me procure une émotion par sa simplicité, son humanisme, son regard humaniste sur les personnages. Mais il y a quand même une nouveauté. Tu disais, Jérôme, que c'est totalement korismakien comme tous les autres. Mais il y a quelque chose dans film que je n'avais jamais vu dans aucun film de Korismaki, c'est qu'on peut le dater. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces films, on ne savait jamais comment, quand ça se passait. Ça pouvait être aujourd'hui, comme il y a 20 ans, comme il y a 50 ans. À vrai dire, il n'y avait un peu que les modèles de voitures qui pouvaient nous indiquer vaguement un temps. Et là, le film est très ancré, tout en ayant ce visuel un peu passéiste, dans le monde d'aujourd'hui, puisque la guerre en Ukraine est très présente. À chaque fois qu'ils allument la radio, on entend des nouvelles du déclenchement de la guerre en Ukraine.
On ne parle que des victimes civiles,
d'ailleurs. Et on parle d'ailleurs à chaque fois des victimes civiles. Et ça, c'est très nouveau, je trouve, pour Korismaki d'ancrer son film dans le monde d'aujourd'hui. Et je voudrais finir, finalement, je suis rentrée il y a 2 heures à peine du festival, et donc j'ai lu mes collègues avec toute la presse quotidienne, et Libération, qui en parlait ce matin, a eu cette phrase que j'adore, où ils disent « Le jour où il fera un mauvais film, il n'y aura plus vraiment aucun espoir pour l'humanité, ni pour personne. »
Xavier.
Mais moi, je suis un amoureux de Korismaki, mais il faut que j'atteste d'un petit manque de surprise. C'est un film quand même que j'ai eu l'impression de connaître. Alors effectivement, Charlotte a éminemment raison quand elle cite ce recours, ce rapport à l'actualité tragique de la guerre en Ukraine. Les affiches de cinéma aussi. Qui
je rappelle que la Finlande est en première ligne, si j'ose dire.
Oui, il y a constamment une affiche de film aussi à l'intérieur des cadres qui est un parcours dans sa cinéphilie, et y compris contemporaine. Donc on sent que Coris Maggie n'est pas un cinéaste blasé qui ne va pas voir ses petits camarades, au contraire. Néanmoins, je le préfère quand il me surprend, ce qui était le cas du Havre, le dernier film qu'on avait pu voir à Cannes et que je trouvais être un chef-d'œuvre absolu, ou encore J'ai engagé un tueur. Là, on est vraiment dans la petite ritournelle Coris Maggie, très agréable.
La petite musique, pop, mais quelle musique, quoi.
Mais les mêmes barques glauques.
Ouais, je la trouve un tout petit peu répétitive, un tout petit peu moins ample que parfois.
Mais tu la trouves pas plus lumineuse? Parce que quand même, c'est un film qui nous parle de l'amour et du chemin que chacun va faire par amour pour l'autre.
J'ai toujours trouvé cette lumière-là dans le cinéma de Coris Maggie. Je trouve même qu'il se fait pas confiance au dernier plan, par exemple, qu'il se croit obligé de surtitrer d'une certaine manière par un élément de dialogue. Ben voilà, c'est un immense metteur en scène. Oui, effectivement, il aime l'alcool et ça nous a valu un tapis rouge extrêmement hilarant, oui, qui a foutu un bordel sans nom, et rien que pour ça, on l'adore. Mais c'est un film formidable, mais un peu mineur dans sa filmographie.
Rappelle-nous ce qui s'est passé sur le tapis rouge.
Bah, tu sais, le tapis rouge, normalement, c'est très réglé, oui, on s'arrête au niveau des photographes, on ralentit, et lui, là, il a poussé du coude comme ça, le pauvre personnage, la pauvre personne qui essayait de le recadrer, tout ça, il en avait rien à foutre.
On l'avait vu danser aussi.
Voilà, à l'intérieur de ce protocole hyper lourdingue qu'est Cannes, quelqu'un qui en a rien à faire et qui est effectivement rue dans les brancards, et ben, ça fait un bien fou, quoi.
Eric.
C'est la plus belle histoire d'amour du festival, et puis ça prouve aussi qu'on peut élever le je m'en foutisme au rang des beaux-arts, parce que on pourrait imaginer ce que c'est un Wim Wenders drôle, ce qui est un peu un oxymore.
Là, on n'y arrive pas.
Non, mais il y a quand même un petit côté ramolli, mais qui retombe toujours sur ses pieds chez Coris Maggie.
Ah bah c'est de l'humour passe sans rire.
C'est ça qui est bien. On compare ça à Tati, mais c'est beaucoup plus drôle et plus sentimental que Tati.
Non, n'importe quoi.
Et là, on est vraiment touché par ces deux personnages. Mais alors moi, je suis très déçu s'il a arrêté de boire. C'est très embêtant, parce qu'il va plus faire les mêmes films.
Quand on l'a vu à Cannes, on a des petits doutes.
Après ce que vous venez de raconter, je pense que c'est bon signe. Et c'est un film qui est assez enivrant et qui vous donne vraiment confiance dans le cinéma comme artisanat pur.
C'est donc le prix du jury, c'est Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki, que vous pourrez voir en salle à partir du 20 septembre. Le prix de la mise en scène. Et là, je ne comprends pas, vous allez peut-être me l'expliquer, est allé à La Passion de Dodin Bouffant, de Tran Anh Hung, qui est le réalisateur français d'origine vietnamienne de L'Odeur de la Papaye Verte, qui était un film qui m'avait marqué en son temps d'ailleurs.
Qui avait eu la caméra d'or à l'époque.
Ah, qui avait eu la caméra d'or. Et là, c'est inspiré par un livre, par La vie et la passion de Dodin Bouffant de Marcel Rouff. Et c'est l'histoire, vous le savez, ou vous l'imaginez, d'amour entre, à la fin du 19e siècle, entre Dodin, qui est joué par Benoît Magimel, qui avait 3 films, hein, dans toutes les sections, au Festival de Cannes, dont Omar Lafraisse, qui sort ces jours-ci. Qui joue Dodin, Benoît Magimel, et sa cuisinière, fidèle, qui est Eugénie, qui est jouée par Juliette Binoche. Qui sortira le 8 novembre, qui n'est pas d'ailleurs, lui, un film inter. Donc, expliquez-moi la mise en scène pour ce film. On peut tout dire, le prix de la gastronomie, le prix de...
Oui, il y avait beaucoup de choses, mais après, tu sais, Jérôme, un palmarès, ils font une shortlist, et puis il faut leur trouver une place. Je pense que le film plaît beaucoup aux étrangers, qui voient effectivement cette célébration à la culture française, à la haute gastronomie, qui est très joliment filmée. Le film est très élégant, il est émouvant dans cette histoire d'amour au printemps de leur vie, comme ils disent dans le film, et des retrouvailles quand même entre Juliette Binoche et Benoît Magimel, qui n'avaient jamais retourné ensemble depuis 20 ans,
ils ont été
alors qu'on sait qu'ils ont été ensemble dans la vie, donc quelque chose d'assez beau dans ces retrouvailles. Après, effectivement, le film probablement aurait pu être à une meilleure place, ou en tout cas une place plus pertinente que la mise en scène, mais néanmoins moi je le défends parce que je trouve que le film il est assez gonflé, c'est-à-dire que démarrer par plus de 30 ou 45 minutes quasiment sans réplique à part sors-le du four, mets de l'eau, rajoute du lait, et de voir un ballet, parce que c'est une chorégraphie dans une cuisine, des plats en train de se faire, mais toutes les étapes, hein, ça démarre par effectivement cueillir la salade dans le potager, et puis on vide les truites, on a toutes les étapes, on se dit, bon, Top Chef, ça va plus vite. Mais là, c'est cette célébration de la bonne chère avec ces plats préparés et créés par Pierre Gagnaire. Faut pas voir le film le ventre vide parce que c'est quand même une torture, ni trop plein parce
ni
que
à
là,
Cannes où il n'y a pas un bon restaurant.
Voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même une émotion qui se dégage, en tout cas dans la deuxième partie du film.
Xavier,
voir le film est déjà une torture, donc de toute façon.
Oh non,
non, mais attends, faut pas exagérer, Charlotte. Moi, je peux avoir d'abord beaucoup de tendresse pour Trana Noum. Bon, là, effectivement, le rendez-vous ne se fait pas. Saluer quand même la perversité des sélectionneurs de Cannes qui ont réussi à mettre après pratiquement 24 heures de décalage un film sur l'anorexie, vive l'anorexie quand même, qui était Club Zéro, Joe Chicago.
Et le lendemain...
Ne dis pas que tu préfères Club Zéro, c'est pas possible.
Les deux.
Mille fois.
Un hommage au cholestérol et au mauvais cholestérol, donc avec Donat Bouffant. Oui, effectivement, tu as raison, il y a 35 minutes magistrales où on a pris les gestes, où effectivement les comédiens ont très bien travaillé, le mimétisme et tout ça, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Entre deux scènes interminables de cuisine, on a les dialogues sur la vie, la mort, l'espoir de vivre ensemble et tout ça. Il y a quand même une scène, alors que certains trouvent géniale, que je trouve un tout petit peu embarrassante pour tout le monde, d'ailleurs y compris pour le réalisateur, où il fait un dessert autour d'une poire.
Le fameux raccord de montage, mais
c'est quand même pas rien, il pose la poire donc sur un plat, et juste après, il surimpressionne d'une certaine manière par un effet de montage, le corps de Juliette Binoche, en poire, qui attend donc de Donat Bouffant dans sa chambre. Et là, moi, je l'avoue que, pardon, mais on me perd. À partir de là,
c'est fromage et dessert. Là.
Très dodu, bouffi jusque-là, mais c'est très étouffé chrétien, ce plan, quand même. Ça ne me raconte rien. Voilà, moi qui adore Top Chef, je me suis emmerdé.
Mais surtout, moi, il m'a semblé que Benoît Magimel n'en avait rien à foutre, surtout, qui est quand même un rôle qui devrait être inspiré. Hein,
Je suis pas d'accord. Vu les dialogues, les réunions avec ses copains, enfin c'est constant.
Non mais Charlotte a raison, j'ai rarement vu la nourriture aussi bien filmée. La préparation, là, le début, ce balai de tous les plats, le four, les casseroles. D'ailleurs il va garder ce prix de la mise en scène comme une casserole, là, le réalisateur, parce que ça, c'est pas du tout un prix de mise en scène. Et les dialogues, mais on a l'impression que c'est traduit du bas allemand. C'est alors mon cher garçon, qu'avez-vous pensé du film? Mais le Harper,
mais
c'est
parce
tout
qu'il y a un côté théâtral et c'est une langue
19e. C'est un côté d'un type qui ne sait pas écrire une réplique. C'est ça qui est terrible. On dirait comme si Maïté s'était égarée dans une toile de Vermeer par moment.
Elle va être contente du Juliette Binoche.
Ils auraient dû donner un prix à Gagnère pour la préparation de tous ces mets. Point final.
Il est très mauvais comédien dans le film. Hein. Bah, il lit ses fiches, il n'arrive même pas à faire une phrase en entier. Hein.
Michel, qui est un fin gourmet.
Moi, je me pose la même question que tu t'es posée au début de ce commentaire du film. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire le prix de la mise en scène? Alors, j'avais entendu les pires choses sur le film. D'une certaine façon, je n'ai pas été, vraiment convaincu de leurs arguments, parce que le film se laisse voir, mais d'abord il est très long. C'est un peu comme les recettes de cuisine qu'on voit à la télévision, il y a des émissions culinaires régulièrement.
Mieux filmé, hein, quand même.
Comment c'est mieux filmé?
Qu'est-ce qui est mieux filmé? C'est l'émission télé ou le film?
Non, celui-là.
On parle de mise en scène, hein, de filmage, mise en scène.
C'est une caméra qui se promène.
Imaginez que tu es un des plus grands comédiens français n'est pas servi tellement par le film. Donc finalement, je trouve que la sélection française était vraiment très discutable. À part La Palme d'Or, qui est un beau film, je trouve que 4 films français, c'était vraiment trop. Surtout quand un des meilleurs films français de l'année, qui est le film de Cédric Kahn, Le Procès Goldman, ne figure pas dans la compétition.
Ni le film qui était à Cannes de Valérie Donzelli, qui, à mon avis, aurait mérité d'être en compétition, d'après le livre d'Éric Reynard. C'est moi qui parle, Éric.
Le film dont on parle aurait dû s'appeler À bout de souffler.
Ah oui, pas mal. Donc, le prix de la mise en scène, c'est La Passion de Donat Bouffant de Tran Anh Hung. On en vient au prix d'interprétation féminine qui est allé à Merve Dizdar dans Les Herbes Sèches du Turc Nouribil Ceylan, qui, je le rappelle, a reçu la Palme d'Or en 2014 pour Winter Sleep, qui est un très très beau film. Et là, c'est l'histoire d'un jeune enseignant qui vit dans un village reculé d'Anatolie, forcément reculé hein, en Anatolie, et qui se désespère d'être enfin muté à Istanbul. Et puis voilà l'amour qui surgit et Merve Dizdar, qui est une activiste gauchiste qui a perdu une jambe dans un attentat. Un film, alors là j'ai pensé à toi Eric, de 3h20. qui sortira le 12 juillet.
J'ai pensé à moi aussi en le voyant, d'ailleurs.
Qu'en as-tu pensé? Et du prix
La première heure est interminable, la deuxième heure est longuette, et la troisième est invisible, parce que je suis parti à ce moment-là.
Eh ben, t'as eu bien tort,
tu
parce qu'elle est géniale.
Non, j'avoue, j'avais un article à faire, je me suis dit que je...
Parce que ça ne ressemble
pas trop à ses films précédents qui étaient très contemplatifs et un peu vains et vides. Là, ça parle tout le temps. C'est d'un bavardage inouï, mais je le reverrai dans de meilleures conditions. L'actrice m'a pas frappé par son charisme ni par son talent.
Surtout qu'elle est, c'est dans la troisième heure qu'elle est très présente.
Donc,
forcément.
Elle aurait dû avoir un tiers de prix d'interprétation. Alors,
Michel.
Bon, je tiens Nouri Bijogelan, et ce film l'a confirmé, comme un des plus grands cinéastes au monde. Oui. Ce film a la richesse, la complexité d'un grand roman russe, un roman
de Dostoïevski. Ce qui était le cas déjà de Winter's Sleep, qui était
un film très tchékovien. C'est un immense cinéaste, mais qui ne coïncide pas vraiment à notre époque, parce qu'il se refuse de juger. C'est-à-dire, tous les personnages sont contradictoires. C'est des face-à-face, des discussions qui nous parlent de tout, de l'amour, de la tristesse, du spleen, etc. Enfin, c'est un film d'une complexité comme les très très grands romans. Il filme les paysages de façon sublime. Je comprends pas, Eric, vraiment, comment tu peux rester insensible à ce génie.
Cela dit, ma question était moins sur le film que sur le prix d'interprétation féminine.
Je sais pas, ils ont peut-être pas voulu donner une deuxième palme d'or, je sais pas.
Ben voilà.
Quelle raison? Ils ont voulu au moins le récompenser quelque part.
Charlotte.
Il fallait absolument que ce film soit au palmarès. Pour moi, c'était une des palmes possibles. Effectivement, après, s'il y a embouteillage, il faut le récompenser d'une manière ou d'une autre. Moi, à titre personnel, je trouve que quand même le film est porté par l'acteur plus que par l'actrice, parce que lui, il est du début jusqu'à la fin. Donc, on va le citer quand même, Deniz Celiloglu, et pardon pour l'accent. La comédienne Merve Didjar, elle est parfaite, mais effectivement dans un rôle plus secondaire. Moi, c'est un des films les plus puissants que j'ai vus cette année à Cannes, et les plus déstabilisants, puisque le point d'arrivée n'est absolument pas celui qu'on croit atteindre. C'est-à-dire que le nœud narratif du début du film, ce professeur qui n'aime plus ses élèves, qui n'aime plus son métier, il déteste là où il est, et est accusé d'être un peu trop proche de ses élèves, on se dit, tiens, ça part sur une histoire comme ça. Et en fait, pas du tout, le film va complètement ailleurs. Comme l'a dit Michel, il filme les paysages de manière mais somptueuse. Et puis, il y a une sorte de truc invraisemblable qui arrive au bout de 2h30, que je n'en dis pas plus. Quand le film sortira, on reviendra sur cette sortie de route géniale.
C'est-à-dire, je le rappelle, le 12 juillet, Xavier.
Oui, il y a une digression absolument savoureuse. On pourrait enlever peut-être 10 minutes à ce film qui est au moins magnifique. Moi, je suis comme Charlotte et comme Michel, j'ai été emporté par ce sens de la narration.
Tu vois, qu'est-ce que c'est, enlever 10 minutes sur 3h20?
Non, mais voilà, parce qu'il y a un moment où un ou deux dialogues ont fini un tout petit peu, à mon sens, encore une fois, par tourner en rond. Mais d'abord, il y a une perversité. On l'a subodoré dans les films précédents de Chelan, mais là vraiment elle perce jusqu'au monologue de fin, effectivement, qui donne son sens au titre et au film. C'est un grand film, c'est un immense film. Alors peut-être qu'effectivement ce prix est une manière de le faire figurer au palmarès, mais l'oublier, le film au palmarès, aurait été un des nombreux...
Oui, ça aurait été une erreur, vraiment.
Une des nombreuses erreurs, absolument.
Les herbes sèches du Turc Nouri Bilgelan, film inter, qui donc figure au palmarès pour le prix d'interprétation féminine accordé à Merve Dizdar. Le prix d'interprétation masculine à Koji Yakusho dans Perfect Days de Wim Wenders, encore un revenant, puisque sa palme d'or date de 1984, c'était pour Paris, Texas. Où le personnage m'a fait penser un peu à des personnages de Coris Maki, là, sauf qu'on est à Tokyo. On est à Tokyo, il est un homme obéi, beaucoup plus sobre. Chaque matin, même rituel, alors il se lève, il range sa chambre, il glisse une cassette de rock, il lit Faulkner, il part ensuite nettoyer, c'est son métier, les toilettes publiques, mais il le fait en souriant. Un film qui sortira, vous avez le temps, en salle le 29 novembre, Charlotte. Top.
Alors, je l'ai pas vu, donc ça va aller vite, mais je voudrais juste souligner que contrairement à d'autres années, je trouve qu'il y a eu très peu de grands rôles masculins cette année. C'était plutôt des grands rôles féminins, et que je pense que le jury s'est mis d'accord assez vite parce qu'il y avait visiblement pas beaucoup de concurrence pour ce prix.
Xavier,
on n'attendait plus grand chose en ce qui me concerne. Je n'attendais plus grand chose de Wim Wenders. Le film m'a séduit. Effectivement, c'est très simple. C'est une mécanique du quotidien. C'est un monsieur qui nettoie les toilettes. Moi, je suis ravi. J'ai l'intention d'aller à Tokyo l'année prochaine, donc je sais que je pourrai aller pisser dans les toilettes publiques de manière très rassurée. Et c'est un comédien formidable parce qu'effectivement, c'est pas un rôle dialogué. Il n'y a aucune raison qu'il le soit. C'est un rôle comme ça qui s'inscrit dans les espaces de vie sociale, de vie quotidienne. Et Wenders le filme très bien. Il y a un très joli découpage qui fait qu'on a l'impression qu'on va s'emmerder pendant deux heures et ça n'est absolument pas le cas. Et c'est un comédien.
Non, c'était le cas avec son film précédent, tiré de Peter Handke.
Les dix derniers films, tu veux dire, ne te limite pas. Et c'est un comédien, Koji Yakusho, absolument remarquable, qui joue une intériorité et qu'on verra bientôt dans une série télé qui s'appelle The Days sur Netflix. Eric.
C'est supportable, mais enfin, c'est pas vraiment nécessaire. Hein, parce que ce qu'on apprend, c'est que les toilettes là-bas sont tellement propres qu'on y mangerait. Mais c'est vraiment
donc pas de remake français en vue. Hein.
Non, ouais, ça, c'est pas possible.
Ça peut pas venir.
Pour Charlotte toi, ça le vient avec Dodin Bouffant.
Il y avait très peu de grands rôles masculins, donc ils ont pris celui où le type était au volant de sa camionnette du début jusqu'à la fin. Là.
Non, mais c'est sinon, plus subtil que ça.
C'est, étant donné le sujet du film, Wenders, c'est quand même un cinéaste au bout du rouleau. Hein, c'est...
Michel.
Du rouleau de PQ, tu veux dire. Non, il fallait être sûr, parce que, au cas où tu veux postuler pour les grosses têtes, il faut aller au bout de ses gags, quand même.
Pas du tout, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que moi, j'étais un grand admirateur de Wenders dans les années 70, c'est un immense cinéaste qui avait perdu la touche, qui avait perdu le savoir-faire, et aucun de ses fictions, il a fait de très grands documentaires depuis toujours, mais ses fictions depuis une quinzaine d'années étaient vraiment totalement déficientes. Et là, j'ai retrouvé le poète de la ville, un homme qui sait filmer admirablement la ville, et j'ai trouvé ce film absolument d'une fluidité, d'une élégance absolument formidable, avec ce personnage extrêmement sympathique qui a eu à juste titre ce prix d'interprétation.
Perfect Death de Wenders qui sortira le 29 novembre. Et enfin, le prix du scénario est allé à un autre palmé d'or de la soirée, Hirokazu Koreeda, pour Monster, qui se déroule dans le milieu scolaire, enfin en tout cas en partie, où s'oppose un gamin, Minato, au comportement préoccupant et qui est orphelin de père, et l'un de ses professeurs, film que lors de sa conférence de presse à la veille de Cannes, Thierry Frémaux, le délégué général, a comparé à Rashomon, le chef-d'œuvre de Kurosawa. Xavier,
on va citer le scénariste, parce qu'exceptionnellement, oui, ça n'est pas Koreeda. Un film écrit par Koreeda, il s'agit de Yuji Sakamoto. Moi, c'est le...
C'est lui qui tient la caméra, quand même.
Oui, oui, non, mais
c'est le prix du scénario.
Prix du scénario, pardon. Oui, ouais. Oh, il est colère ce matin. Ouh là là, il faut rien reprendre. Ouais. Moi, c'est un film que j'ai vu pratiquement le premier jour et dont je ne me suis à ce jour toujours pas remis, que je trouve d'une construction effectivement scénaristique flamboyante, totalement cristallisée et sublimée par une mise en scène d'une précision et d'une beauté absolument sans nom et qui, au contraire des films dont je parlais tout à l'heure, laisse les personnages évoluer. C'est un film sur les apparences trompeuses, la caractérisation des personnages où effectivement on a l'impression d'avoir tout compris d'eux et en fait, deux heures et quart après, on aura vu le contraire. Je ne peux pas dire comment ça se finit parce que c'est inattendu, c'est bouleversant, ça nous venge d'un très mauvais film qui était de l'année dernière en compétition à Cannes. Mais si je dis le titre, on va comprendre. C'est un film, effectivement,
un
qui
film
a franchi... Voilà, un film qui a
avec
franchi un
garçons.
Tout petit peu... Bon, attendez, je tiens à rien dire. Qui a franchi Koreeda, peut-être, effectivement, des tabous, en tout cas de là où il ne voulait pas aller. Moi, qui m'a bouleversé à tout point de vue, je suis sorti vraiment les larmes aux yeux. Il y a une fin qui nous laisse un petit peu interrogatif, et tant mieux. Il y a des moments d'humour, il y a une immense tendresse et une humanité inaltérable.
Je t'interromps,
oui,
Xavier,
oui, bien sûr, pardon.
J'ai encore deux questions à vous poser. Eric.
Non, je comprends que ça a eu le prix du scénario, mais le scénario est quand même bourré à craquer, hein, comme un buffet à volonté où on pourrait se goinfrer. Il y a trop de choses dedans en plus.
T'es obsédé par la bouffe ce soir.
Oui, hein, mais... c'est le prix de la mise en scène qui m'a atteint. Et non, il y a le côté Rashomon, il y a encore un prof accusé ou pas d'avoir fait quelque chose de répréhensible. Mais le film a toujours le charme des films de Koreeda, qui est quand même un type qui filme avec un naturel et une humanité, comme on dit quand on pense bien. Qui est toujours là, mais le scénario, je n'ai pas l'enthousiasme de Xavier pour ça.
Michel ?
La raison pour laquelle je pense que ce festival était une réussite, c'est que beaucoup de cinéastes revenaient de loin. Et les deux derniers films de Koreeda m'avaient beaucoup déçu. Le film français qu'il avait fait avec Deneuve et l'autre film.
Et Binoche.
Et là, au contraire, Juliette Binoche. Il a retrouvé son inspiration.
À Paris.
Et c'est le cas de plusieurs films, de Scorsese par exemple, également un autre exemple hors compétition. Donc je pense que ce film de Kore-eda, j'ai retrouvé le bon Kore-eda qu'on avait un peu perdu de vue.
C'est donc Monster de Kore-eda.
Alors je vais dire un tout petit mot très rapide.
Qui a reçu le prix du scénario.
J'ai le temps ou pas?
Une seconde.
Non, bah alors,
non, mais j'ai d'autres questions à vous poser.
Okay.
C'est à propos de Kore-eda?
Oui, oui, non, non, mais vas-y, continue. C'est parce que j'ai pas parlé dessus, mais c'est pas grave.
Mais tu m'as dit que tu ne l'avais pas vu.
Bah si, je l'ai vu.
Non, c'est le précédent.
Menders.
Pardon.
Il y a aucun problème. Non, il y a aucun problème. Puis, non,
nous non plus, on n'a pas vu les films, mais on en a parlé quand même.
Mais mes camarades ont tout dit. On va trop pas perdre de temps. Mais je suis en fait entre vous dans le sens où je trouve ce scénario trop touffu au début, qui nous perd un peu dans ses méandres scénaristiques avec beaucoup de fausses pistes et tout, et en même temps. Tout s'illumine et s'éclaire dans la deuxième partie du film, parce que là aussi, on est au-delà de deux heures, et que c'est quand même effectivement un film bouleversant. Voilà.
Je vais Monster de Kore-eda. Encore une fois, je te demande de m'excuser, Charlotte. Petit bilan, rien pour Wes Anderson, rien pour Nanni Moretti, rien pour Catherine Breillat.
Ça, c'est un scandale.
Rien pour Marco Bellocchio, rien pour Todd Haynes, rien pour Ken Loach. Ça vous paraît normal ou est-ce qu'il y a des injustices selon vous, Charlotte?
Ben c'est chaque année, on se pose la question. Il y a que 7 prix à remettre. Il y a 20 films, donc forcément il y a des gens laissés sur le carreau. Pour faire vite, moi ma grande oubliée c'est Catherine Breillat. Je trouve que l'été dernier est un retour magistral. Ça fait 10 ans qu'on attendait un film de Catherine Breillat qui pourtant est le remake d'un film danois. Et quand on voit ce film là, c'est du 100% Breillat. Léa Drucker est stupéfiante, je trouve, dans le film, et qui a là pour le coup un sens de la mise en scène, du montage, même de la narration. Moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée et dont on reparlera à la sortie.
Donc pour toi, le Catherine Breillat, c'est la vraie injustice. Ouais. Xavier,
je vais laisser le bel locu à Michel parce que nous partageons le même enthousiasme pour ce grand metteur en scène et ce film-là. Et je vais garder Todd Haynes, May, September, le face-à-face entre Julianne Moore et Natalie Portman. C'est un film, là aussi, on va finir par croire que j'aime la perversité, mais oui, j'assume, un film éminemment pervers, remarquablement écrit, sublimement filmé, sur des apparences très trompeuses. Alors, en deux mots, c'est l'histoire d'une femme qui autrefois a été l'objet d'un scandale sexuel qui a beaucoup, effectivement, fait parler et de lui et d'elle, évidemment, en mal dans les tabloïds. Et quelques années plus tard, une fois les choses retombées, une actrice, un peu à la mode, mais enfin, surtout connue pour les publicités de savon qu'elle fait à la télévision, décide de faire une fiction autour de ce personnage et de ce scandale. Et c'est une dissection au scalpel, avec beaucoup d'humour cynique, et en même temps beaucoup d'humanité, de la société de spectacle aux États-Unis, effectivement, qui décide de faire du fric à partir d'anciens scandales, et la fin est géniale.
Dans la liste que j'ai donnée, Eric, tu vois une injustice ?
J'aurais bien aimé que Nanni Moretti ne reparte pas bredouille, parce qu'avec son film là, sur la mort du cinéma, c'est le film qui tourne, qui se passe en 56, en pleine crise de Budapest, l'illusion du 7e art et du PCI. Il y a à la fois un désenchantement et un optimisme et quelque chose de moins auto-narcissique que d'habitude. Il aurait pu figurer, mais comme il avait déjà eu la Palme d'Or. Mais surtout, moi, je voudrais conseiller le Scorsese qui était venu en compétition.
C'est la question d'après. Ah bon, Michel, est-ce que tu vois un oublié injustifié?
Alors, d'abord, je suis d'accord avec Eric. D'ailleurs, l'humanité a détesté ce film, ce qui prouve qu'ils ont été touchés.
Tu parles du journal ou tu parles de l'humanité, le monde entier?
Le journal a vraiment détesté ce film, et je les comprends, parce que ça ne donne pas une très haute idée du Parti communiste italien, qui était pourtant moi un des moins mauvais qu'on pouvait trouver à l'époque. Non, moi, je suis très, très ému par le film de Bellocchio, qui est... Ému n'est pas seulement le mot, je veux dire que chez Bellocchio, ce qu'il trouve admirable, c'est qu'il y a un certain réalisme et en même temps une outrance mélodramatique. Il aime l'opéra et il filme les situations un peu comme des scènes d'opéra. C'est un sujet extrêmement fort du 19e siècle où un pape avait kidnappé un enfant juif pour l'éduquer comme un catholique. Ce que fait Poutine aujourd'hui avec les Ukrainiens, les enfants ukrainiens qu'on transporte en...
Et qui est une histoire vraie, en plus, Russie. À l'origine. Ça s'est vraiment passé.
C'est dans le passé, 19e.
Non, ça s'est vraiment passé, c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie. Et je trouve que le film est absolument passionnant.
Donc le regret,
c'est un grand Bellocchio qui aurait dû être récompensé.
Et donc l'autre événement de Cannes, c'était évidemment le nouveau Scorsese, qui n'était pas en compétition, Killers of the Flower Moon, avec DiCaprio, avec De Niro et quelques autres, qui est l'adaptation d'un livre de David Grahn. Vous l'avez vu, ce Scorsese, non?
Oui.
Charlotte, Michel, Eric. Donc pour toi, Eric, ça aurait été,
c'est
le vrai.
C'est comme si Scorsese était venu sur la croisette événement. Pour dire aux autres, vous voyez les gars, je fais pas le même métier que vous.
Tellement d'accord. Tu trouves ça formidable.
Ouais.
Charlotte,
bah oui, 3h28, ça fait peur et pourtant ça passe comme un court-métrage. Ouais. Le film est dément. Ouais. Et les acteurs, l'histoire. Alors il y a beaucoup de choses et on s'emmerde pas une seconde. Alors faut dire, il y a un meurtre.
C'est sur les,
c'est sur les
Indiens,
hein,
c'est ça.
Ouais, oui,
mais il y a d'ailleurs et il y a une construction assez sérielle aussi. Il aurait presque pu en faire une série. Et puis il signe peut-être le plus beau plan final du festival, qui est un plan graphique fait avec un drone qui rappelle les Catalans indiens, c'est incroyable.
Et Michel ?
Très beau film. Alors évidemment, DiCaprio en fait un peu trop.
Oui, il se prend pour Marlon Brando, hein, avec le menton.
Il surjoue un peu, mais en même temps, De Niro est extraordinaire. Ouais. Dans une sorte de boss, de mafieux à la tête d'un village, plus ou moins. Non, ce qui est intéressant, c'est que Scorsese, quand il était jeune, avait une caméra tournoyante, avait des effets de style. Et là, il filme comme George Stevens. Il filme avec un grand sens de la beauté plastique, des plans relativement calmes, de grands interprètes. C'est un film passionnant.
Et on peut dire qu'il est drôle.
Il y aura une
aussi.
Double sortie, donc à la fois en salle.
Et sur la plateforme. Et il y a beaucoup d'humour. C'est-à-dire que malgré le sujet dramatique, c'est assez drôle quand même.
C'est le grand romanesque.
En revanche, vous n'avez pas vu, aucun de vous n'a vu Indiana Jones ?
Non.
Non.
Ça a été complet tout de suite, parce qu'on a un site de réservation, c'était très compliqué d'avoir des billets.
Il n'y avait pas vraiment de projection, assez de projection pour la presse.
Même pas dîné avec Harrison Ford.
Même pas, on le regrette.
Et ma dernière question, évidemment, c'est le film que vous avez préféré et celui que vous avez préféré détester pendant ce festival de Cannes. On va commencer avec Xavier.
Sur la compétition ou sur l'ensemble?
Oui, oui.
Alors celui que j'ai préféré détester, on y reviendra, c'est le Jessica Hausner Club Zero. Je ne sais même pas comment on peut faire un film pareil, qui pendant 1h45, interminable, là aussi très froid, très clinique, on a l'impression que c'est tourné à l'intérieur d'un réfrigérateur. L'histoire d'une prof qui décide d'affamer ses élèves et de leur donner envie d'être anorexique, c'est absolument douteux. Le contrepoint qui sont les parents et le système scolaire est caricaturé
par Jessica Hausner. Et ton film préféré ?
Et mon film préféré... Alors un premier film, alors c'est pas mon film préféré mais c'est une très bonne surprise, il s'appelle Augure. C'est réalisé par un jeune réalisateur, je cherche son nom, Baloji Chiani, voilà. Et c'est un récit de sorcellerie qui se passe au Congo et c'est d'une inventivité absolue et c'est super féministe.
Charlotte, le préféré, le détesté?
Alors, le détesté, je peux pas vraiment dire le détesté, mais en tout cas, celui qui m'a le plus déçu, peut-être, ou en tout cas laissé complètement à la porte, c'est La Chimère, moi, d'Albert Rochwerchter.
Oh,
bah, je sais que Xavier adore, et moi, je suis restée complètement extérieure au film, donc je me suis vraiment passablement ennuyée. Et préféré, finalement, j'en ai eu beaucoup, et je l'ai dit tout à l'heure, le Catherine Breillat, probablement, reste, et le Tchélan resteront mes deux grands chocs.
Tu es scotché, si j'ose dire, au film de Catherine Breillat,
je sens. Oui, vraiment, vraiment.
Eric.
Dans les préférés, deux films qui étaient à un certain regard au début de la compétition, c'est le Thomas Caillet, le
Règne animal. Oui, vachement bien, vachement bien.
Il maîtrise le fantastique à la française avec une intelligence et une originalité folle.
Et
Mona Chokri, la Québécoise, un film le plus drôle, d'ailleurs le seul film drôle du festival, qui s'appelle...
Il faut comprendre que Xavier est en train de mimer...
De suffoquer, de mourir en direct, voilà.
Xavier trouve que La Chimère est sublime, il peut pas aimer un film drôle, parce que La Chimère, c'est vraiment la roulette du dentiste à l'époque pendant 2h30.
Et Michel, le préféré est celui que tu as le moins aimé, disons, à défaut de détester.
Peut-être parmi ceux que j'ai le moins aimé, il y en a 3 ou 4. C'est Asteroid City de Wes Anderson, qui est une vraie purge.
Oui, c'est vrai.
Déjà, le précédent Wes Anderson, c'était la fin d'un cinéaste talentueux. Alors là, c'est interminable. Il y a un générique de 500 noms. Ils ont travaillé tous comme des brutes pendant 1 an et demi. Et le résultat, c'est 0 sur l'écran. Et le film préféré, je pense que c'est tout de même Les Herbes Sèches.
De Nouri Bilgelan. On reparlera évidemment de tous ces films dans Le Masque et la Plume à partir de cet été, puisqu'ils vont sortir pour certains en juillet et en août, les autres à l'automne. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Eric Neuhoff et Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, la technique, et je le remercie, Sofiane Aktib, à la réalisation Xavier Pistugia. Et notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu jeudi prochain, jeudi 1er juin, cette fois au théâtre de l'Alliance Française 101 Boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, à partir de 19h pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de littérature. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment. Et après le journal, vous retrouvez Cécile Coulon et son émission La Source avec, ce soir comme invité, Marie Desplechin.